Mais bonjour à tous. Alors, ce matin, vous le voyez, on va parler de Jonas, mais c'est le début d'une série. Je vais faire une série de prédications, je vais faire les 4 chapitres, mais en plusieurs fois. Je ne vais pas faire 4 fois, enfin, je ne vais pas faire un chapitre à chaque fois, parce que j'avais envie d'aller un petit peu plus loin, j'avais envie de peut-être aller plus profondément dans le texte. Ceux qui me connaissent un petit peu savent que j'aime bien Jonas. Au groupe de jeunes, je crois qu'ils en ont marre que je leur rappelle des trucs sur Jonas. Mais je ne l'ai jamais fait dans une prédication et j'avais envie de faire cela et de vous partager ça. Donc je vous propose qu'on prenne évidemment le livre de Jonas, chapitre 1 et versets 1 à 7. La suite viendra plus tard. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Aminathai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa, et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. Les marins eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le bateau afin de l'alléger. Jonas était descendu au fond du bateau, s'était couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, fais appel à ton Dieu. Peut-être voudrait-il penser à nous et nous ne mourrons pas. » Puis ils se dirent l'un à l'autre « Venons, venez, tirons au sort pour savoir qui de nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors avant de commencer, on a besoin de faire un petit point géographie. Donc, on a trois lieux qui ressortent. On a Jaffa. Donc Jaffa, c'est le port pas très très loin de Jérusalem. Enfin, pas très loin. Au bord de la mer, quoi. Ça correspond à peu près à la ville actuelle de Tel Aviv. Et donc, Jonas part vers... Enfin, Dieu lui demande de partir vers Ninive.
Alors, normalement, il y a des petits points qui vont apparaître. Donc, vas-y. Voilà. Et on voit, Ninive, c'est là. C'est le point rouge qui est là.
Donc, Ninive, ça correspond à l'actuelle ville de Mossoul en Irak, si je ne me trompe pas, ou en Iran.
Irak.
Irak, ok. j'ai oublié. Et... qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et entre les deux points, donc...
Jaffa ici, à peu près ici, et Ninive là-bas,
ça paraît pas, mais il y a quand même 800 km. J'ai fait un petit calcul assez simple, hein, à raison de 25 km par jour, il faut quand même un mois pour y aller, à pied. Donc, c'est pas tout près quand même. Et donc, Ninive, c'est une grande ville, une ville à peu près de la taille de Besançon actuellement, donc c'est quand même une très 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 grande ville, et c'est même probablement la plus grande ville du monde actuellement, à l'époque de Jonas. Et ensuite, on voit que Jonas, il part, du coup, pas à Ninive, mais à Tarsis.
Tarsis, on pense que c'est le point qui est tout là-bas, vers l'Espagne,
vers Gibraltar. C'est la limite un peu du monde connu, on va pas beaucoup plus loin... en tout cas pour les Israélites, c'était un peu la limite du... C'est un peu le bout du monde, quoi. C'est un peu comme si aujourd'hui on allait en Australie ou en Nouvelle-Zélande, quoi. C'est vraiment ça. Et donc, ça peut désigner ça. On dit aussi des bateaux de Tarsis. Donc, c'est des bateaux qui partent loin, en tout cas vers l'ouest. Donc, on n'est pas sûr, mais on pense que c'est là. Et donc, en tout cas... Une chose est sûre, c'est que c'est une destination lointaine, à l'ouest d'Israël, et donc à l'opposé complet de Ninive, qui est à l'est, au nord-est, si je veux être précis. Et donc, voilà. Voilà un peu pour le point géographie. Un rapide point histoire aussi. Nous sommes entre 793 et 753 avant Jésus-Christ, sous le règne du roi Jéroboam II. Et Ninive, c'est donc, je ne sais pas si je l'ai dit, mais la capitale de l'Empire assyrien, qui est devenue en moins de 50 ans, en tout cas une période très brève, une grande puissance. Et cette puissance, c'est un petit peu l'ennemi du peuple de Jonas, de l'ennemi d'Israël. De plus, il y a beaucoup de raids, beaucoup d'attaques qui sont menées, notamment dans le nord d'Israël. Voilà. Et donc, on voit rapidement, avec un peu de contexte, que sans vouloir donner raison à Jonas, pardon, il faut reconnaître que la tâche est quand même assez ardue. Et le message, c'est un message difficile qu'il doit annoncer, et on comprend un petit peu mieux peut-être la réticence de Jonas à aller à Ninive. Le livre de Jonas, c'est le seul livre prophétique où Dieu envoie un prophète auprès des païens. Et pour en venir un petit peu à la prophétie, en tout cas au message qu'il doit annoncer à Ninive, la parole nous dit que l'Éternel s'adresse à Jonas et lui dit « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est venue jusqu'à moi. » Cet appel, c'est un appel missionnaire. Et Jonas, c'est un petit peu le livre missionnaire de l'Ancien Testament. Et pour nous, qu'est-ce que nous évoque la mission ? La mission, ce n'est pas quelque chose de réservé à une élite, c'est une poignée d'hommes, de femmes prêtes à parcourir le monde pour faire connaître Jésus-Christ. Néanmoins, j'ai rencontré quelques personnes qui avaient vraiment ce cœur pour des pays, parfois des pays en particulier, ou en tout cas des peuples plutôt. Et je me souviens d'une personne en particulier qui avait une passion pour les Comores. Alors, je ne vais pas divaguer, mais en gros, les Comores, c'est une île au-delà du côté paradisiaque, et c'est le cliché de l'île paradisiaque avec les palmiers, le sable blanc et les grands hôtels de luxe. Au-delà de ça, c'est un pays où la charia règne et où les chrétiens sont très persécutés. Et elle souhaitait donc annoncer l'évangile là-bas. Le Seigneur lui avait mis ça sur son cœur. Et par ailleurs, Kurt, qui est avec nous, et Ruth, ont également servi le Seigneur en Afrique, et le Seigneur appelle sans cesse des personnes pour ce type de mission. Et on appelle ces personnes des missionnaires un peu, enfin un peu, on appelle ces personnes des missionnaires, mais la mission, ce n'est pas que ça. Il y a un verset d'Ésaïe 52, au verset 7, qui nous dit qu'ils sont beaux, et je n'ai pas affiché les versets que je dis à l'oral, désolé. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, de celui qui apporte de très bonnes nouvelles, qui annonce le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La mission, c'est ce qui est appelé à faire Jonas, et c'est ce que l'Église est appelée à faire, et individuellement c'est également ce que nous sommes appelés à accomplir sur cette terre, annoncer cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, mort et ressuscité, partager la raison de notre joie, de notre paix, et surtout, la source de notre salut. Et pour en revenir à notre texte, comme on l'a vu, Jonas est part de l'autre côté, à l'opposé, vers Tarsis. Et ce passage, c'est un petit peu comme disait mon prof de pâtisserie. Oui, je sais que le lien n'est pas évident comme ça, mais il disait, quand il faisait une erreur, il disait « c'est la pédagogie par l'erreur ». Et c'était sa phrase. À chaque fois qu'il faisait une boulette, c'était sa pédagogie par l'erreur. Et je trouve que c'est un peu ça quand même. C'est un peu la pédagogie par l'erreur. Et en fin de compte, ce qu'il souhaite, c'est fuir l'Éternel, mais aussi fuir sa mission. Une chose intéressante à souligner, c'est qu'il préfère payer le prix de la traversée plutôt que d'accomplir sa mission. L'argent, pas un peu d'argent quand même dans ce passage. Voilà une facette plutôt inattendue, ce passage. Et sans vouloir aller trop loin dans mon développement, est-ce que nous ne payons pas parfois pour fuir notre mission. Nos distractions, nos loisirs, nos voyages, quels qu'ils soient, ne seraient-ils pas parfois un moyen de fuir nos responsabilités et fuir notre mission ? Les distractions ne sont pas forcément et ne sont pas mauvaises en soi, mais la question est plutôt de se demander si elles ont la bonne place dans notre vie. Jonas paye donc pour fuir loin de celui qui, fondamentalement, est à l'origine de son argent. Et on voit dans ce passage qu'il y a quelque chose qui ressort, c'est la fuite. Voilà ce qui caractérise Jonas, du moins dans ce premier chapitre. On verra plus tard, ça ne caractérise pas tout le temps, mais en tout cas pour l'instant, c'est un peu ce qui le caractérise. Au niveau de la pédagogie par l'erreur, je crois qu'on est pas mal. Et Michel Barton, qui était l'ancien directeur de Portes Ouvertes et qui est venu l'année dernière lors du culte CNEF, a dit dans un autre contexte, à un autre moment, qu'il s'identifiait plus à Jonas qu'à tout autre personnage dans la Bible. Et je dois bien reconnaître que j'ai beaucoup aimé ça et que finalement moi aussi. Et c'est vrai que si on est honnête 5 minutes avec nous-mêmes, notre tendance à fuir est parfois, j'ose dire bien souvent, en tout cas souvent, plus forte que notre envie d'obéir à Dieu, d'accomplir ce mandat missionnaire qui nous est confié. Dieu aime Jonas. Je sais que pour l'instant ça paraît pas beaucoup, mais Dieu aime Jonas malgré sa faute, sa fuite et sa rébellion. Et pourtant, c'est bel et bien une tempête qui s'abat sur ce bateau qui navigue en direction de Tarsis. Et là, on retrouve trois réactions différentes. Celle, en premier, des marins qui se raccrochent à leur Dieu, chacun le leur, enfin chacun le sien plutôt, à sa croyance. Celle des marins encore qui, dans un élan pragmatique, balancent par-dessus bord tout ce qui peut alourdir le bateau. On se dit oui, c'est logique, sauf que c'est aussi se priver d'un potentiel profit au retour, si encore faut-il qu'ils s'en sortent. Mais en tout cas, on peut voir cette réaction. Et enfin, une troisième réaction, celle de Jonas qui dort, qui se cache en quelque sorte au fond du bateau, et encore une fois, il fuit ses responsabilités. Et lorsqu'une tempête, une épreuve survient, comment réagissons-nous ? Cette petite liste que nous donne ce passage n'est pas exhaustive, mais je suis sûr que nous nous identifions à une ou plusieurs de ces réactions. En tout cas, moi je m'identifie à quelques réactions. Et dans ce passage, ce qui en ressort, c'est finalement le désespoir, la peur et la crainte. Et chacun se raccroche à quelque chose pour sauver sa peau. Le but, il est là. Et sauf Jonas. Sauf Jonas qui, étant prophète, pourrait potentiellement implorer aussi Dieu, son Dieu, qui est aussi le nôtre. Pourtant, Jonas dort bien profondément au fond du bateau. Et malgré cela, envers et contre tout, le Seigneur est bel et bien présent. Et c'est grâce, et non pas à cause de lui, que cette tempête arrive. Cette tempête n'est pas une punition. Jonas fuit, mais Dieu aime Jonas et il n'a pas dit son dernier mot. Et en ce qui concerne les marins maintenant, on reviendra pour notre ami Jonas juste après, ils sont, c'est le cas de le dire, dans le même bateau que Jonas, ou plutôt c'est Jonas qui est dans le même bateau qu'eux. Et contrairement à lui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont actifs. Et comme on l'a vu, la première chose qu'ils font, c'est d'invoquer leur Dieu. Et ensuite, seulement, ils allègent le bateau, ils balancent par-dessus bord ce qui peut alourdir le bateau. Et c'est intéressant de noter que faire appel à leur Dieu est la première chose qu'ils font. Ces marins sont des païens, probablement des phéniciens, habitués à être en mer. Pour faire un grand voyage comme ça, ce n'était pas de simples pêcheurs qui faisaient juste une nuit de pêche et revenaient au port.
C'était des gens qui étaient habitués à être en mer, et pourtant, ils se tournent en premier lieu vers, on va dire, le spirituel. Et ne serait-ce pas finalement dans la nature de l'homme, j'ai entendu cette phrase, je ne sais plus trop où, mais qui nous dit, qui disait, nous avons tous un vide en forme de Dieu. Et bien sûr, aujourd'hui, les dieux de ce monde ont quelque peu changé, quoique, en tout cas, ils ont changé parfois de forme, mais la liste n'est pas exhaustive, hein. La réussite, la famille, le travail, l'argent, la liste est infinie, je vais m'arrêter là, sont finalement aussi des formes de Dieu, si elles sont mises en premier, auxquelles il est tentant d'y placer notre sécurité, notre bonheur et notre foi. Et cette foi en des dieux qui ne mènent nulle part finalement, est vraie pour les marins, pour aussi les personnes que nous côtoyons parfois tous les jours et qui disent ne pas croire en Dieu. Mais cela nous touche aussi. Bien que nous soyons croyants, ces dieux deviennent alors des idoles dans lesquelles nous plaçons notre confiance. Les personnes qui ont écrit sur Jonas, j'ai lu plusieurs bouquins dessus, et en fait, ils disent un peu tous la même chose, je n'aurais pas forcément trouvé tout seul, mais que le réel problème de Jonas, c'est qu'il s'aime trop lui-même, en fait. Et il s'aime trop lui-même pour aller vers les Ninivites. Et en tant que prophète, il a probablement peur d'être ridiculisé, d'être méprisé, car il connaît la grâce de Dieu, il connaît la grâce dont Dieu peut faire preuve, et ne serait-ce pas finalement également une forme de déisme, d'idolâtrie. Et en tout cas, Jonas, lui, continue de fuir sa mission. Il est en froid avec Dieu et dort au milieu du chaos. Combien de fois nous fuyons notre mission, celle d'annoncer l'Évangile? Combien d'occasions manquées de parler de Dieu? La peur du rejet, la peur du ridicule ou la moquerie sont autant de raisons qui peuvent nous pousser à dormir. Nous ne sommes peut-être pas missionnaires au sens où on peut parfois le comprendre, mais pourtant, nous sommes appelés à être des lumières, à refléter Christ par notre comportement, nos paroles, bien sûr, mais aussi nos actes. Et le témoignage, la mission, passe par nos paroles, mais aussi par notre façon d'être et de réagir. Les versets suivants, donc les derniers versets de notre petit passage, 5 et 6, nous montre toute l'ironie et l'absurdité de la situation. J'imagine un petit peu le capitaine du bateau s'éboulant sur Jonas qui dort au lieu d'affronter la tempête et d'essayer de les aider. Et encore une fois, la première chose qu'il demande, ce n'est pas un truc du genre « Viens vite nous aider à sauver notre peau ». Non, c'est « Implore ton Dieu ». Il lui demande d'implorer son Dieu. Ce Dieu que Jonas a rejeté et qu'il fuit. Je trouve que c'est quand même une sacrée ironie. C'est un marin païen qui rappelle à Jonas de prier. Je trouve ça pas mal quand même. Notre Seigneur utilise parfois des situations, des épreuves, des tempêtes dans nos vies pour nous venir en aide finalement et nous faire réfléchir. Quitte à utiliser des non-croyants, et dans notre vie de tous les jours, c'est parfois nos collègues, nos amis, nos chrétiens qui relèvent nos incohérences, nos manquements. Et Dieu utilise pour nous parler parfois des chemins bien mystérieux pour nous rappeler finalement notre mission, celle d'être des témoins, des ambassadeurs du Christ. Un autre chemin mystérieux, c'est le tirage au sort des marins. Et j'aime l'ironie du Seigneur, encore là, qu'on retrouve encore là, qui va jusqu'à utiliser la superstition des marins pour parler à Jonas. Jonas, il est destiné à mourir et le sort s'acharne contre lui. Pourtant, spoiler, je ne spoilerai pas la suite, mais bon, je pense que vous la connaissez quand même, il sera
sauvé. Et cet acte n'est pas sans rappeler que notre sort à tous, c'est de mourir. Sans l'intervention de Jésus-Christ, la finalité, eh bien c'est la mort, l'éternité loin de lui. Mais grâce à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, à la croix qui a pris notre place, nous avons la possibilité d'être sauvés, malgré que le sort naturel de chaque homme, c'est de mourir. Romains 6, au verset 23, nous dit « En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Le destin de Jonas, c'est la mort. Et dans le langage courant, on utilise parfois le mot « destin », il y a plusieurs sens, mais selon la Bible, notre véritable destin, c'est de mourir. La seule chose qui nous sauve, c'est le don gratuit de Dieu. Et ainsi, malgré le chaos apparent, on voit que, en connaissant la suite, que le Seigneur dirige toutes choses, même le hasard. Et le hasard ne s'écrirait-il pas avec un D comme Dieu ? Le livre des Proverbes nous dit ceci : on jette des sorts dans le pan de la vie, mais c'est de l'Éternel que vient toute décision. Tout cela fait partie du plan de Dieu. Qu'il est bon d'avoir cela en tête, car l'épreuve est bien souvent terrible, sans espoir apparent. Et c'est vrai qu'à cet instant de la vie de Jonas, le sort est loin d'être joyeux. D'ailleurs, on s'arrêtera à la fin du verset 7 ce matin, et au moment où on s'arrête, il n'y a pas beaucoup d'espoir, en tout cas pour Jonas. Jonas s'est éloigné de Dieu, il a fui même le plus loin possible, en toute connaissance de cause, hein. Il connaissait le Seigneur, et voilà, il était, parce qu'il était prophète, donc il fuit sa mission, il fuit Dieu. Pourtant, l'Éternel est toujours présent, omniscient dans la vie de cet homme. Alors pourquoi ne le serait-il pas pour nous? Car au regard de la suite, rien n'est laissé au hasard. Quel encouragement pour nous. Lorsque l'épreuve est là, devant nous, nous ne voyons pas bien souvent rien, en fait. En tout cas, pas grand-chose. Juste l'épreuve qui est devant nous. Et elle peut être longue. Pourtant, notre Seigneur, il est omniscient. Même dans les situations les plus terribles, Dieu aime Jonas et il nous aime envers et contre tout. Et pour conclure, le livre de Jonas tout entier est un appel à la mission. Et ces premiers versets nous montrent comment réagit le prophète Jonas, ses états d'âme, son amertume, sa fuite. Oui, Jonas fuit loin vers Tarsis, loin de l'Éternel, pense-t-il. Et il est facile de blâmer notre ami Jonas. Pourtant, je crois qu'il nous représente tous un petit peu. Plein de choses peuvent nous éloigner de notre Seigneur. Nos loisirs, la peur, l'épreuve peuvent nous pousser parfois à fuir le Seigneur, mais aussi fuir notre mission. Notre mission, c'est d'être des témoins fidèles. Cela dit, malgré nos fautes, le Seigneur nous aime, il souhaite nous voir revenir, nous voir demander pardon, continuer d'aller de l'avant, quitte à utiliser des moyens parfois improbables pour nous faire réagir. La mission de Jonas, c'est un petit peu notre mission, et je terminerai avec le verset 15 d'Éphésiens 6. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Voilà un peu ce que nous montre ce livre de Jonas et la suite bientôt. Je laisse la place à François pour terminer ce temps.